Je vous invite à prendre place, à faire silence et à vivre ce culte.
Marc 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées.
Bonjour, bienvenue à chacun, à vous qui nous suivez, qui êtes avec nous depuis chez vous, et à vous qui êtes ici dans cette salle, bienvenue à chacun. La salutation de l'ange aux femmes a été souvent « N'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est aussi la salutation de Jésus ce matin pour chacun d'entre nous. Nous nous sommes quittés vendredi soir après l'office à la croix, dans la nuit et le silence de la mort de Jésus. Ce matin, nous nous retrouvons dans la lumière et la musique de Pâques, de la résurrection de Jésus. Si Jésus était resté mort, nous ne cesserions de penser à notre condamnation. Vous êtes méchants. Regardez, Jésus a dû souffrir pour vous délivrer. Mais Dieu l'a ressuscité. Et en le ressuscitant, Dieu nous dit « Je vous pardonne ». Et l'histoire qui s'était arrêtée à la mort de Jésus repart, redémarre, et nos histoires personnelles à chacun aussi. Alors à Pâques, malgré les circonstances que nous connaissons, les circonstances du monde, les circonstances personnelles de chacun d'entre nous, oui, ça vaut vraiment la peine de fêter Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Il est plus fort. Merci. Nous prions. Seigneur, nous venons vers toi ce matin avec tout ce que nous sommes, tout ce qui nous habite, de positif et de négatif, sachant que tu nous accueilles tel que nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de sentir ta présence à nos côtés, dans nos cœurs. Chacun et chaque être sur cette terre a besoin de toi. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Par ton Saint-Esprit, fais-nous comprendre et entrer dans ce que tu veux nous dire. Amen. Vendredi Saint, Pâques, on est passé de Vendredi Saint à Pâques. Il y a une raison pourquoi il y a eu Vendredi Saint, il y a une raison pourquoi il y a eu Pâques. C'est ce que Célina va nous expliquer.
Je vais lire dans Genèse 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et Genèse 4, les versets 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ? » Pardon?
Ah, juste après qu'ils aient mangé la... Qui t'a révélé que tu étais nue? Voilà. Ah voilà, 6, 7. Ouais, 6 et 7.
Alors, dans Genèse 2, toujours, 3, pardon, versets 6 et 7. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures.
Bonjour à chacun. C'est un plaisir de me retrouver avec vous pour ce temps de Pâques. Bonjour à chacun qui est chez vous aussi. Pour ce temps de culte, nous avons prévu 3 temps. Je vous préviens pour que vous ne vous laissiez pas surprendre, tout en vous laissant surprendre aussi par le déroulement que nous avons prévu pour vous ce matin. Au jardin des origines, une tragédie a mis l'humanité en ruine. Ce jardin était comme un sanctuaire où se rencontraient l'humain et son créateur. L'humain en était le gardien, chargé de cultiver cette terre et de la préserver. En ce lieu, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers pour que l'homme puisse s'en nourrir. Des arbres érigés entre terre et ciel, droits, debout, tout comme l'homme chargé d'en prendre soin. Mais dans ce lieu, un arbre n'était pas fait pour être mangé. Il était là, simplement là, au beau milieu du jardin du pays d'Éden. Il s'appelait Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire arbre de la connaissance bien et mal. La connaissance était un arbre qui était là. Mais ce n'était pas un arbre fait pour être consommé comme tous les autres. La connaissance bien et mal n'était pas là pour être réduite par la mastication et la digestion. Elle n'était pas là pour satisfaire l'appétit. C'était un arbre qui était là, un point c'est tout. Dieu ordonne à l'humain d'instruire sur ce fait. De tout arbre du jardin, tu mangeras. De l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le mot « instruire », les morts, n'est souvent malheureusement pas traduit. Et pourtant, Dieu demande à l'humain d'instruire sur le fait de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Instruire sur le comportement à avoir face à la connaissance. Mais cet ordre fut malheureusement mal enseigné. Et quand la femme, qui fut créée après, rencontra le serpent, qui était rusé, elle fut trompée. Le fruit de la connaissance a été réduit par la bouche et le corps humain. Et la conséquence en a été désastreuse. Certes, c'est vrai, la mort n'a frappé ni l'homme ni la femme dans l'immédiat. Mais le premier acte humain après ce repas est interpellant. Il s'agit d'un acte de dissimulation. L'homme et la femme se sont cachés. Le texte nous dit que leurs yeux s'ouvrirent et que la première connaissance qu'ils eurent fut leur corps nu. La vulnérabilité du corps humain a été dévoilée par la connaissance. Mais la vulnérabilité, est-ce bien ou est-ce mal? L'homme et la femme ont eu honte et ont choisi de se dissimuler. Ils ont décrété que cette vulnérabilité était mal et que le corps devait être caché. Il est vrai que le fruit de la connaissance ne les a pas tués. Mais par la dissimulation du corps, a débuté une lente progression vers la destruction du corps. L'homme a mal considéré son corps créé, qui pourtant avait été déclaré bon par Dieu. La connaissance digérée et réduite par l'humain n'a pas permis à l'homme de trouver une autre manière de faire face à la connaissance de la vulnérabilité. La connaissance de la vulnérabilité humaine. En réduisant la connaissance par un acte de consommation banal, l'humain a vu sa nudité comme une faiblesse et une honte. Il y a un jeu de mots dans le texte qui peut nous éclairer et peut nous aider à mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Achrom, en hébreu, décrit à la fois la nudité humaine et la ruse du serpent. C'est comme si la connaissance que pensait acquérir l'homme au travers de la mastication du fruit interdit avait réduit considérablement l'intelligence humaine pour la rendre aussi rusée que celle du serpent. Laissez-moi vous expliquer ça différemment. Il n'y avait aucun danger dans le jardin d'Éden, rien. L'homme y était placé comme gardien et Dieu veillait sur sa création. L'homme et la femme étaient nus et il n'y avait aucune honte à cela, nous dit le texte de la Genèse. Et puis tout à coup, là où il n'y avait aucun problème, l'homme en a vu un. Il a pensé sa nudité comme une faiblesse qu'il fallait dissimuler. L'intelligence s'est mise en mode survie et a usé d'un stratagème de défense, se cacher. L'homme s'est mis à ruser. Ce qu'on décide de cacher, de renier, au final, on décide de l'éliminer. Et c'est ainsi que la mort est entrée insidieusement et progressivement dans la création, jusqu'au meurtre d'Abel, le premier mort de l'histoire humaine. Le monde, à la suite de cela, est devenu un endroit hostile. Il y eut de l'hostilité entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la création, entre l'homme et son corps, et entre l'homme et Dieu. À la sortie du jardin d'Éden, tout était différent et beaucoup plus dur. L'homme a dû travailler très dur pour manger, manger pour vivre et survivre dans ce monde dangereux. L'humain a entraîné sa propre perte. Le récit biblique qui suit ces premiers chapitres de la Genèse nous montre comment l'humain se comporte face à sa vulnérabilité et à la mort. Et on le sait, l'histoire humaine, qu'elle soit biblique ou pas, est remplie d'événements tragiques, terribles. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur la mort des hommes. Mais le Créateur en a décidé autrement. Si l'homme est vulnérable, Dieu est tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, il se rendra un jour vulnérable pour sauver l'humain de sa destruction.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre.
Jean 6, versets 48 à 58. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant : Comment peut-il nous donner son corps à manger ? Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Peu de temps avant ce passage, Jésus avait miraculeusement nourri des milliers et des milliers de personnes grâce à 5 pains et 2 poissons. Il avait offert un pain venu du ciel, tout un symbole qui rappelait la manne que Dieu envoya à son peuple qui traversait le désert après la sortie d'Égypte. C'est cette libération qui est célébrée dans la Pâque juive. À la suite de son miracle nourrissant, qu'on appelle la multiplication des pains, les gens se sont mis à le chercher, à le traquer, à le pourchasser pour plus de nourriture. Quand l'homme est affamé, il est prêt à faire n'importe quoi. Depuis la sortie du jardin d'Éden, c'est dans la douleur que l'humanité vit et meurt. Et la nourriture est ce qui offre de pouvoir vivre jour après jour. Et le Notre Père nous dit bien, donne-nous notre pain de ce jour. Dans ce discours, Jésus vient interroger ce besoin de nourriture. Mais de quelle nourriture parle-t-on? Tous lui courent après pour un peu de pain. Manger, manger, manger. Encore et encore, manger une nourriture qui ne rassasie pas et qui ne sauvera pas de la mort. Pourtant, ils l'ont vu, ce miracle de la multiplication des pains, et ils n'ont pas compris ce qu'il se jouait devant eux. Peut-être n'ont-ils même pas cherché à comprendre le lien entre l'enseignement de Jésus et ce geste miraculeux. C'est alors que Jésus fait résonner ces phrases au travers de cette foule au ventre vide. Je suis le pain de vie, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Des paroles surprenantes qui ont provoqué un véritable scandale parmi la foule. J'aime mettre ce passage à côté de celui de l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance dans la Genèse, car il y a un vrai renversement des choses. Ici, il est question de manger, non pas pour mourir, mais au contraire pour vivre. Mais de quelle nourriture on parle ? Jésus dit « Mangez mon corps, buvez mon sang ». Et pourtant, Jésus le sait, le sang est interdit à la consommation par la loi. Alors que dire du fait de manger de la chair humaine ? Du cannibalisme ? Une abomination ? Alors pourquoi Jésus donne-t-il cette étrange parole ? Une autre nuance du texte de la Genèse vient poindre ici, la connaissance. Car c'est en connaissant Jésus, en recevant son enseignement, en croyant en lui, qu'on comprend. Et alors, on trouve l'accès à la nourriture dont il parle, ce pain qui donne la vie. La connaissance de ce Dieu tout-puissant rendu vulnérable dans la chair humaine. Et car contrairement à Adam et Ève qui ont choisi de dissimuler la vulnérabilité, Jésus, lui, l'a incarné. Il a incarné la vulnérabilité humaine et l'a restaurée dans toute sa force de vie. Mangez mon corps, buvez mon sang. Cela signifie prendre part à cette vulnérabilité humaine et à l'image de Dieu que Jésus incarne. Jésus savait parfaitement où il mettait les pieds. Il a marché dans un monde hostile qui a horreur de l'échec et de la faiblesse. Bref, un monde qui cherche à anéantir tout ce qui remettrait en cause la gloire des hommes. Toute faiblesse est saccagée, éliminée, assassinée. Au moment de la multiplication des pains, Jésus était au top de sa popularité. Mais après ce discours sur le pain de vie, devinez quoi ? Un petit peu plus loin, dans Jean 6, au verset 66, on nous dit ceci. « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. La foule s'en est allée, car il fallait de la foi pour croire et accepter d'engager sa vie dans ce qui peut paraître une pure folie. » C'est sur ces paroles que la grande partie du ministère miraculeux en Galilée de Jésus va se finir. Et après cela, il ira en territoire païen avant de prendre la direction du sud, de la Samarie, puis de la Judée, et finalement d'achever son œuvre sur la croix à Jérusalem. Comment faire face à cette vulnérabilité humaine si l'on ne croit pas que Jésus l'incarne parfaitement, pleinement ? Cette vulnérabilité, il l'a vécue. Son corps a été rompu. Son sang a coulé. Mais comme Jésus le dit lui-même dans ce même discours, l'homme, par ses propres forces, ne peut rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Jésus a donné sa vie pour que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est voir en cette vulnérabilité la toute-puissance de Dieu qui donne la vie. Alors voici le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Tout naturellement, nous allons prendre la Sainte Cène suite à ce que Célina nous a dit, ça va de soi. J'ai mis la table en bas. Parce que Jésus est descendu du ciel sur la terre. Il s'est fait l'un des nôtres.
Pendant le repas de la Pâque, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Jésus a dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il y a 2 semaines, Célina nous a parlé du corps. J'avais dans la tête la préparation de ce culte. Je savais qu'elle allait lire Jean 16. Et Joanne a lu l'institution de la Sainte Cène. Et là, j'ai senti quelque chose de spécial en moi. Je me suis dit, mais j'ai senti Dieu, Jésus très très proche, une proximité très proche. Et j'ai réfléchi et j'ai essayé de mettre en mots l'idée qui était née ce jour-là. Il m'a semblé que Jésus nous avait tellement aimés qu'il avait vraiment épousé notre condition humaine. Il nous avait aimés à ce point-là. Qu'il s'était fondu dans ce que nous sommes au point de se donner à manger et à boire. C'est pas rien. Comme l'a dit Célina, il a pleinement incarné notre vulnérabilité, ce que nous sommes. Pour moi, c'est aussi un signe de la part de Jésus qu'il reconnaît nos besoins les plus profonds, le besoin de manger et de boire, mais aussi nos besoins d'être en communion les uns avec les autres, avec Dieu, nos besoins d'être rejoints, rencontrés pour de vrai, dans tout ce que je suis, besoin d'être pardonné, d'être rassuré, d'être mis en sécurité. Quand j'ai faim et soif, je bois, je mange. Ah, mais alors, ça fait du bien, on se sent bien après avoir mangé et bu, quand on en avait vraiment besoin. Je crois que c'est ce que Jésus nous offre, quand il se propose à manger et à boire. Il nous offre une communion profonde, très en profondeur, au très fond de notre être. Il nous offre un lieu où nous nous sentons acceptés dans la totalité de notre être, connus et aimés. Aimer pas seulement avec ce qui est présentable, mais aussi avec nos tourments secrets qui font que l'intelligence se met en mode survie et use d'un stratagème de défense, se cacher. On souffre, on cache, on aimerait que ça n'existe pas, comme l'a dit Célina. Alors ce matin, en mangeant le pain et en buvant le vin, savourez ce que vous faites. Goûtez dans le détail ce que vous font cette nourriture et cette boisson et laissez-vous rejoindre et visiter par l'amour si plein, si complet de Jésus pour chacun d'entre nous. Nous avons préparé pour chacun d'entre vous un petit gobelet avec du pain. Les morceaux de pain sont gros. C'est pour que vous puissiez bien sentir le pain dans la bouche quand vous le mangerez. Pas pour réduire la connaissance, mais pour recevoir celle que Jésus a de nous. Nous allons passer dans les rangs. Prenez d'abord les verres au bord. Il s'agit de toucher ne pas toucher que le verre que vous allez prendre. Ne mangez pas tout de suite. Pour la dimension communautaire, nous la mangerons tous ensemble. Et quand vous aurez fini, vous pouvez laisser le gobelet avec le petit godet sous votre chaise, on ramassera après. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de vin pour laquelle nous disons merci est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez, encore une chose.
Seigneur Jésus, on te remercie pour ce temps de repas qu'on peut reprendre ensemble, tous ensemble ici à Mérin, après plus d'une année. Qu'on puisse vraiment le faire dans cette communion de ton corps brisé, de ton sang qui a coulé, de cette vie que tu nous donnes, pour être pleinement avec toi, avec Dieu, dans cette perspective de vie éternelle. Que tu puisses nous renouveler dans tout notre être. À toi la gloire, Seigneur. Amen.
J'ai préparé aussi un plateau avec du jus de raisin. Si quelqu'un préférait du jus de raisin, qu'il fasse signe et Claude passera, vous l'apportera. Tous graciés avec les chrétiens, les catholiques, les protestants de Mérin et les chrétiens du monde entier, nous prenons la Sainte Cène. Jésus nous a mis debout, je vous invite à vous lever pour dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Je vais lire dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 49. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel.
C'est comme si nous étions revenus à un point de départ, à la création du monde. Mais après tout, pourquoi pas? Et si la résurrection de Jésus nous annonçait la nouvelle création du monde? Dans ce texte dense du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, Paul parle d'Adam, le premier humain que Dieu a créé. Quel bel écho au premier passage de la Genèse de tout à l'heure. Alors ouvrons nos cœurs et notre intelligence pour comprendre ce qu'il se joue ou se déjoue à travers la résurrection. Le thème de la création est répété juste avant ce passage. Et ici, nous voilà devant une semaille. Le corps est semé corruptible, telle une graine mise en terre. Et il ressuscite incorruptible, nous dit le texte. La mort et la résurrection du corps est à la fois un processus naturel, mais aussi spirituel. Tout comme dans la nature, des graines sont plantées pour devenir des plantes. Le corps humain mortel est comme une graine semée en terre. La graine se dégrade dans le sol et devient quelque chose de très différent, car une plante ne ressemble pas à sa graine. Et c'est dans cette pensée-là que l'apôtre Paul décrit le processus de la mort et de la résurrection, comme une continuité de la vie qui continue jusqu'à dépasser la mort. Mais aussi une discontinuité, car le corps qui meurt diffère de celui qui ressuscite. Qui se relève. Le corps de l'humain, fait de la poussière du sol, avait été estimé méprisable, honteux, au point qu'Adam et Ève l'avaient caché. Ce corps-là meurt dans la faiblesse pour ressusciter dans la gloire, à l'image de Jésus. Pourtant, le corps de Jésus, avant qu'il ne meure, n'était pas différent de celui des autres humains. Mais lui, il a vécu son humanité sans honte devant Dieu et devant le monde. Le corps de Jésus ressuscité est donc un corps glorieux, puissant. Ressuscité, le corps n'est pas qu'une matière qui fonctionne par lui-même, par elle-même, nous dit Paul. Car ce corps de résurrection est rempli de l'Esprit de Dieu qui lui donne la vie éternelle. Le corps devient ou redevient un lieu de rencontre. Un lieu où terre et ciel sont unis comme au commencement. C'est un lieu où l'Esprit de Dieu plane ou se promène. L'humain a été placé au milieu de ce jardin de la rencontre pour porter l'image du Créateur. Alors Paul nous dit au verset 49 « Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est du ciel. » La nouvelle création nous offre de réunir à nouveau ce qui a été séparé et cassé. Le ciel et la terre, l'homme et Dieu, la vie humaine à la vie éternelle. Alors, la vie que nous menons aujourd'hui dans ce corps, qui un jour périra, fait partie de ce processus naturel. Mais il y a aussi cette réalité surnaturelle, celle où Dieu intervient directement pour renverser la mort. Cette mort qui n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, tout comme le premier. C'est Dieu qui le donne sur toute sa création. Au début de l'évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole ». Tout comme les premiers mots de la Genèse sont « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». À l'achèvement de son œuvre du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, Dieu prononce une bénédiction, un jour nouveau, comme ce magnifique lever de soleil. Le septième, tout était achevé, tout était accompli. Tout est accompli, une phrase qui résonne fort dans ce temps de Pâques. C'est une des sept paroles que Jésus prononça à la croix. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Voilà la nouvelle création faite en Jésus, le dernier Adam. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Tout est accompli en Jésus-Christ. Avec lui, nous prenons part aux promesses de vie éternelle que la mort ne peut détruire. Que nos vies résonnent jour après jour du triomphe du Seigneur. La mort a été vaincue. Ne craignons pas. À Jésus soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je Sans couler pour moi, aucun amour n'est plus.
C'est difficile hein, de ne pas chanter. Il faut s'exprimer autrement. Surtout celui-là. Oui, surtout celui-là, je suis d'accord avec vous. Les chants ont été enregistrés par Ashley, Lauriane et Elena Duquert, qui a aussi joué du violon. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Les annonces. On se retrouve dimanche prochain. L'offrande, il y a une caissette à la sortie, autrement par le CCP ou par Twint. Il y a encore un chant pour célébrer la vie de Jésus.
Dans un grand rire, éberlué de voir surgir comme un fils d'homme éblouissant que le Père accueille.
vous invite à vous lever pour la bénédiction. C'est dans Philippiens. Et vous, qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable, inattaquable. Mais il faut que, par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. Croyez, n'ayez pas peur. Jésus est vainqueur, Jésus est ressuscité. Et avec lui, nous prenons part à son royaume de gloire. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce et de sa justice, et qu'il vous aide jour après jour à vous approcher de lui dans sa paix. Amen. Très belle fête de Pâques à chacun de vous et bon dimanche à tous. Thank you.